Il existe un vieux verbe latin, ago, agere, qui signifie conduire un troupeau. C'est un verbe extrêmement archaïque qui a une origine agropastorale, qui a donné, comme vous le savez, à agir ou par le supin action, mais qui à l'origine est le verbe du pasteur, le berger qui conduit son troupeau. Et je voudrais que vous imaginiez cet acte, puisqu'il s'agit de ça, cet acte du berger en train de conduire son troupeau. Eh bien, il a devant lui des centaines de têtes, et ces têtes comprennent des agnelles naïves, des boucs récalcitrants, des agneaux complètement sots, et puis des femelles pleines de la première portée, de plusieurs portées, plus des malades, plus etc. Donc des éléments disparates. Beaucoup d'éléments et des éléments disparatés avançant dans l'alpage et dans la vallée, il est obligé, pour maintenir son troupeau, il est obligé d'utiliser deux ou trois chiens qui tournent autour du troupeau pour maintenir et essayer d'éviter des accidents. Voilà le schéma, en gros, de son action, à gérer. Et soudain, il apprend par son portable en fin d'après-midi que son frère, qui conduisait un troupeau dans une vallée voisine, vient de se casser la jambe et est amené par hélicoptère à l'hôpital de Briançon. Et donc, il est obligé de rentrer précipitamment à la bergerie pour récupérer le troupeau de son frère. Et il apprend en même temps que son fils a eu des difficultés avec le service militaire. Il est obligé de prendre aussi le troupeau de son fils, et le voilà à la tête non plus de 500 têtes de bétail, mais de 1500 têtes de bétail, et qu'il a de la difficulté le lendemain à maîtriser. Pourquoi ? Parce que, évidemment, les chiens ne sont pas les mêmes, et les têtes de bétail ne sont pas habituées à son cri, et ne sont pas habituées aux abois des autres chiens, etc. Donc, et qu'est-ce qu'il fait en ce moment ? Il court à gérer. Non seulement et il a géré, c'est-à-dire il conduit son troupeau, mais comme il est obligé de prendre deux troupeaux ou trois troupeaux supplémentaires, il est obligé, le latin dira, co-agérer. Et le voilà parti le lendemain ou le surlendemain avec ses 1500 têtes de bétail, encore plus disparates qu'au début. Et on peut dire en ce moment-là que les bêtes en question sont agitées, c'est-à-dire qu'elles sont de plus en plus nerveuses, elles ne comprennent pas ce qui se passe, la difficulté de la maîtriser est plus grande, et on va dire de ce troupeau qu'il est co-agitare. Vous avez reconnu évidemment là l'étymologie profonde de cogitare. Et qu'en est-il de penser ? Eh bien voilà du cognitif, de la philosophie de la connaissance, de la bonne philosophie de la connaissance. Il se trouve que le verbe cogitare, qui n'a pas d'équivalent en français, mais en latin seulement, a comme origine cette expérience-là, cette expérience concrète du berger qui est obligé de maintenir des têtes de bétail innombrables et toutes différentes. Et donc, si vous voulez, la question du pluralisme que vous m'avez posée, que je suis obligé de traiter comme une figure imposée, n'est-ce pas ? C'est la question est comment configurer l'innombrable disparate. Et c'est ça la question du berger, et c'est la question que la langue même latine a donnée comme étymologie profonde de pensée, de cogitare. Évidemment, ça n'a pas d'équivalent en langue française. Si, ça a des équivalents populaires en langue française, qui retrouvent exactement l'origine agropastorale du latin, puisque l'étymologie de cogitare qui a filé en latin et que nous n'avons pas gardé se retrouve en termes agro-pastoral parce que c'est le même mot que coaguler. Vous voyez, l'innombrable disparate va coaguler. Et même encore mieux, dans le vocabulaire populaire, ça a donné le terme cahier, vous voyez, c'est-à-dire prendre. Et c'est les deux réponses qu'on peut avoir linguistiquement à la question que j'ai posée. Comment maîtriser l'innombrable disparate ? Comment le faire coaguler ? Comment le faire cailler ? Vous voyez ? Et le langage français le dit parfaitement, alors qu'il n'a pas pris de doublé savant avec cogitare qu'on a laissé au latin de cuisine. Alors, donc, la question que j'ai à traiter, c'est celle-là, comment maîtriser l'innombrable disparate? Et cette question se réfère simplement au pluralisme, en ce que le pluralisme pose deux questions, une quantitative, qu'est-ce qu'un grand ensemble, qu'est-ce qu'une grande population, qu'est-ce qu'un grand nombre, et deuxièmement, qualitativement, ce que j'ai appelé tout à l'heure les éléments disparates, c'est-à-dire les éléments de cette grande population sont plus ou moins tous différents. Et bien entendu, cela pose trois questions que je vais traiter l'une après l'autre ou en même temps. Une question de cognitive, puisqu'il s'agit de cogitare, comment penser, qu'en est-il de penser? Une question objective, puisqu'il s'agit en effet de vision du monde. Les objets seraient là, tout simplement, le troupeau de moutons, d'agneaux, d'agnels, de boucs ou de mâles récalcitrants. Et d'autre part, collectif, c'est-à-dire quelles sont les relations dans un grand ensemble entre ces éléments disparates. Donc c'est ça la question fondamentale qui est posée, et dans le concret le plus... Enfin, c'est pas votre quotidien, mais c'est le quotidien du berger, tout simplement. Peut-être que vous n'avez pas cette expérience-là. Il aurait été intéressant que vous l'eussiez. Et donc je répète ma question... Comment maîtriser cet innombrable disparate? Alors effectivement, dans la figure de cogitare, dans la figure que j'ai énoncée pour commencer, le troupeau se réfère au berger. C'est-à-dire, il y a une unité, c'est ça que vous disiez tout à l'heure, et l'unité, c'est l'action de celui qui conduit le troupeau. Alors, comment répondre maintenant à cette question de l'innombrable disparate? Bien, il y a une réponse qui nous induit à comprendre mieux ce qui s'est passé au VIe siècle avant Jésus-Christ en Grèce. Parce que la langue grecque, j'ai parlé tout à l'heure de la langue latine, la langue grecque appelle logos, elle n'est pas originale en ce que logos veut dire verbe ou parole. Dans toutes les langues du monde, il y a un mot pour dire verbe ou parole. Et il existe en grec. Mais la langue grecque n'est pas originale parce que logos veut dire verbe ou parole. Ce n'est pas ça qui est intéressant philosophiquement parlant. Non. Logos, ça veut dire autre chose en Grèce. Et c'est ça l'originalité de l'invention grecque. C'est que logos veut dire justement une partie de la solution à la question que je me suis posée. C'est-à-dire, les Grecs commence en réfléchissant sur un élément A et un élément B disparates, qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Et logos veut dire quel est le rapport entre A et B. Quel est le rapport entre A et B? Et le sens profond et original en langue grecque du terme logos veut dire ça. Et c'est ce sens-là qui va essaimer dans toutes les sciences du monde par la suite, ou historique, cosmologie, biologie, etc. Et c'est ça que ça veut dire. Quel est le rapport qu'on peut instaurer entre deux éléments disparates, A et B. Et à partir de ce logos va partir une sorte de chemin dont le deuxième acte va être l'analogone. Et l'analogone, ça va être A sur B égale C sur D, c'est-à-dire le noyau de toute démonstration géométrique ou mathématique grecque à partir des présocratiques jusqu'à Euclide. C'est ça le noyau profond de la démonstration, c'est l'analogone. Et cet analogone, la légende dit qu'il est instauré au pied des pyramides par Thalès, qui le premier, semble-t-il, d'après la légende, aurait dit « il y a un rapport entre mon corps et son ombre qui est le même rapport qu'entre la grande pyramide et l'ombre de la pyramide ». Et c'est ça la première idée de A sur B égale C sur D, ou la première image, ou la première réalisation de cet analogone. Et bien entendu, ça résout une question absolument extraordinaire, c'est on peut mesurer l'inaccessible, on peut mesurer la grande pyramide par le rapport A, B, C, on trouve D. Et ça, c'est une invention tout à fait extraordinaire, au moins pratique. Mais de plus... Il faut réfléchir sur cette question d'analogone qui permet de donner une seconde solution au problème du disparate. C'est la suivante. Revisitons Thalès au pied des pyramides et on s'aperçoit que Thalès va poser une question qui est très simple et qui est la nôtre, c'est-à-dire il y a perceptivement un ensemble infini de triangles, Platon va même dire qu'on peut trianguler le monde, mais cet ensemble infini de triangles peut être maîtrisé par le fait qu'ils ont tous la même forme. Et c'est-à-dire que le théorème de la similitude résout précisément notre problème. Comment maîtriser l'innombrable disparate ? Ah, c'est très simple. On va maîtriser l'innombrable à la condition de varier sur le disparate et de bloquer le disparate. Et ce disparate-là va être bloqué à un moment. On va dire quel est le rapport qui peut exister entre un nombre infini de triangles à la condition qu'ils aient tous la forme de triangle. Et la forme de triangle, ça sera eidos, la forme du triangle, c'est-à-dire l'idée platonicienne. C'est-à-dire, l'idée platonicienne est engendrée, et on ne le dit pas assez, est engendrée précisément par la question, ou plutôt la solution au problème posé par comment maîtriser l'innombrable disparate. Alors, ce disparate va être bloqué un peu par le fait du triangle, mais quand vous avez l'idée de cercle, c'est de nouveau la même chose, c'est-à-dire vous avez une infinité de ronds dans le monde qui vont être maîtrisés dans leur grand nombre par le fait qu'ils ont eidos, la même forme, l'idée de cercle. Et vous voyez comment le disparate va varier. C'est-à-dire, on va imaginer l'idée de cercle, l'idée de triangle, l'idée de losange, l'idée de parallèle, etc. Et vous voyez que toutes les mathématiques vont tout d'un coup avancer dans leur essence et probablement leur histoire par le fait qu'elles ont mis en place, peu à peu, une solution humble et avançant doucement à la question que vous m'avez posée, c'est-à-dire comment maîtriser l'innombrable disparate. Et bien entendu, cette analogie, cet analogone, va être poursuivie dans toute l'histoire des mathématiques par mille et une variations sur cette question, équation, égalité, parallélisme, homothétie, tout ce qu'on peut imaginer, des relations d'invariant par variation. Et non seulement j'ai éclairé là l'origine des mathématiques, mais j'ai éclairé là probablement son essence profonde, son geste profond, qui va aller jusqu'au structuralisme et au-delà, aujourd'hui, sur des problèmes de ce genre. C'est-à-dire que toute la question, c'est pour maîtriser le grand nombre, il suffit de faire varier le disparate. Et ce disparate-là, ça sera la forme, on va faire varier la forme indéfiniment, et c'est comme ça que je dirais volontiers que toutes les mathématiques se mettent en place, les isomorphies, les endomorphies, etc., toute la mathématique moderne passe là. C'est toujours d'une manière, on refonde, on recommence le geste d'origine. Voilà la langue heureuse, si vous voulez, la langue magnifique pour laquelle j'ai une admiration quasi mystique, simplement parce que elle est la langue progressive qui, au cours de l'histoire, a été notre meilleure stratégie pour répondre à cette question fondamentale que j'ai posée tout à l'heure et qu'effectivement nous devons résoudre rapidement. Et on doit la résoudre pourquoi ? Parce que précisément cette question ne cesse de se poser depuis plusieurs siècles. Et en effet, la question de l'innombrable disparate va se poser, je ne sais pas, dès le XVIIe siècle, au moment où on invente le calcul des probabilités, où toute la question, en effet, multiplie les jeux, les dés, les foules et les grands nombres, la loi des grands nombres de Bernoulli. Donc déjà, on a devant soi comment penser les grands nombres et les grandes populations. Un peu plus tard, la thermodynamique statistique nous met en présence d'une foule innombrable de milliards de molécules. Comment maintenir, et d'ailleurs, le démon de Maxwell, ou Maxwell lui-même, sera le berger des molécules. C'est-à-dire qu'il aura devant lui, effectivement, des milliards de molécules qu'il faudra trier et comment les maîtriser. Ensuite, au XIXe siècle, l'évolution des mathématiques l'amène aux théories des ensembles, et la théorie des ensembles nous met devant des équipotences transfinies, de nouveau d'immenses populations, sur lesquelles il faudra poser des groupes, des structures, etc., c'est-à-dire des unités avec variation de la forme, de disparate. Et de la même façon, la cosmologie va observer des milliards de galaxies sur des milliards d'années, avec des singularités dans le monde qui dépassent de très loin nos possibilités de les classer. De même, l'histoire naturelle, dès le XVIIIe siècle, est en présence d'une foule d'espèces dont on n'a pas encore d'ailleurs maîtriser le nombre et qui, devant nous, ne fait que se multiplier avec les espèces de monocellulaires, d'eucaryotes et de procaryotes, avec des nouvelles familles qui surabondent devant nous et que nous avons de la difficulté de nouveau à maîtriser. Et bien entendu, je ne parle pas de la climatologie, etc. Et puis surtout, aujourd'hui, nous avons devant nous des banques de données avec des données innombrables qu'il nous faut maîtriser. Et ces données touchent à la fois la cosmographie, l'océanographie, évidemment des sciences dures ou douces, mais surtout des sciences humaines, puisque toute la question des données aujourd'hui est une question du pluralisme, et du pluralisme alors démocratique. Je vais en parler à la fin. Donc vous voyez que nous avons devant nous justement ce problème et que nous avons dans l'histoire des manières ou une langue pour le traiter. Et alors à supposer que les mathématiques soient vraiment la langue qui permet précisément de parler ou de maîtriser cet innombrable disparate, alors je me retourne, puisque vous avez parlé de lui, vers Philippe d'Escola. Vous voyez, alors ça, Philippe d'Escola est un homme qui m'intéresse beaucoup, parce qu'effectivement, il a devant vous exposé sa classification des cultures. Alors, ces classifications animistes, etc., vous savez ça par cœur. Mais il y en a quand même une qui m'intéresse au premier chef. C'est ce qu'il appelle l'analogisme. Et c'est une vision du monde, l'analogisme, qui dit « toutes choses du monde sont différentes ». C'est-à-dire, le fond de l'analogisme, c'est l'idée du disparate. C'est ça que dit d'Escola. Et que toute la difficulté de la vision du monde analogiste, c'est de trouver des relations entre un disparate qui n'en a pas. Et c'est ça que dit d'Escola. Eh bien, voilà, si d'Escola était là, je lui dirais « moi, je suis de culture analogiste ». C'est-à-dire, je ne suis pas un moderne, comme ce qu'il appelle, lui, les naturalistes, n'est-ce pas ? Mais je suis plutôt de culture analogiste, comme les Inuits ou comme les aborigènes d'Australie. Je suis un aborigène d'Australie. Pourquoi ? Parce que, dès l'origine de ma manière de penser de façon rigoureuse et exacte, des mathématiques, nous avons posé une vision du monde analogiste, n'est-ce pas ? Nous sommes des analogistes parce que nous sommes des Grecs. Et peut-être sommes-nous aussi des analogistes parce que nous sommes des latins, je viens de le démontrer précisément par l'étude au moins rapide d'un mot simplement qui signifie en latin « penser », qui signifie en latin « maîtriser », évidemment, l'innombrable disparate. Alors voilà ce qui nous est arrivé comme problème et les éléments de solution dont je puis disposer. Évidemment, une des manières que les mathématiques ont choisi vers le milieu du XXe siècle pour traiter cette question-là, ça a été l'algèbre des structures, c'est-à-dire l'algèbre que vous connaissez, qu'on appelle l'algèbre moderne, qui permettait de prendre des ensembles infinis et ces ensembles-là, de les comparer lorsqu'ils étaient disparates. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la pensée structurale de l'algèbre ? C'est de prendre des éléments en géométrie ou des éléments en théorie des nombres et de montrer que ces ensembles infinis avaient précisément un eidos commun. Et c'était ça la pensée de l'algèbre telle que je l'ai connue. Et d'ailleurs, quand je suis arrivé à l'école normale, dans des années que je ne cite pas parce que c'était le néolithique tardif, n'est-ce pas, arrivé précisément avec l'algèbre allemande de Van der Verden, cette pensée-là, qui était parfaitement nouvelle et que j'ai appris sur les bancs de l'école normale avec mes amis mathématiciens. Et là, c'était l'effort le plus moderne, disons, pour essayer de répondre à la question de l'innombrable disparate. Voilà. Et d'ailleurs, ça donne ça m'avait donné, pour m'amuser au moins, des exemples raffinés, un peu jolis, si vous voulez. Si vous lisez la fable toute simple « Le loup et l'agneau » et que vous êtes familier en algèbre de la structure d'ordre, eh bien, vous allez voir tout d'un coup que l'amont et l'aval dans un cours d'eau, c'est de la structure d'ordre, qu'un mélange ou un trouble est irréversible et c'est une structure d'ordre, que l'engendrement et la parenté, c'est de nouveau une structure d'ordre, que le pouvoir royal et la hiérarchie, c'est de nouveau une structure d'ordre, et du coup, on pouvait avoir une vision absolument unique de la diversité, précisément, qui était énoncée dans cette fable-là, et c'était simplement une analyse de type algébrique, si vous voulez, d'un élément de ce texte-là. Alors, vous voyez donc que maintenant, lorsque je pose la question de cette manière-là, je la pose de façon presque en dehors des catégories qu'a énoncé mon présentateur. C'est-à-dire, je me moque un peu que ce soit de l'objectif, que ce soit du subjectif, que ce soit du collectif, ou que ce soit, vous voyez, du cognitif. C'est-à-dire, voilà, c'est une vision du monde, voilà, globale, je me présente devant une disparate. Et c'est la vision de Leibniz. La vision de Leibniz ne distingue pas du tout entre le cognitif, parce que la monade, elle pense d'une certaine manière, elle a... Et du collectif, oui, elle a des relations entre elles, ou de l'objectif, c'est un atome. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est une question qui se pose en bloc. Et alors, comment précisément Leibniz va résoudre la question de l'innombrable disparate, parce qu'il y a une infinité de monades et qu'elles sont toutes différentes. La monade de César n'est pas la monade de Monsieur Gabaret, etc. Et donc, comment va-t-il résoudre la question de l'innombrable disparate? Alors, il a comme réponse à cette question la thèse de l'harmonie préétablie. Alors, qu'est-ce que c'est que la thèse de l'harmonie préétablie? Oh, c'est quand même très amusant, si vous voulez. Elle consiste à dire, quand je parle à Christiane Frémont, eh bien, vous croyez que je parle à Christiane Frémont et que Christiane Frémont me répond. Mais pas du tout, pas du tout. Leibniz dit, quand je parle à Dieu, et Dieu transmet mon message à Christiane Frémont. Et quand elle me répond, Christiane Frémont parle à Dieu et Dieu me transmet le message. Alors vous allez me dire, c'est une solution extrêmement dépensière, puisque au lieu d'avoir une relation, je vais en avoir deux, n'est-ce pas? Et c'est donc une solution sans intérêt, puisqu'elle dépense plus que la perception le fait voir. Et alors Leibniz, à ce moment-là, dit, bon, c'est très bien, mais supposons qu'on soit trois. C'est-à-dire qu'il y ait Christiane Frémont et puis M. Gabaret en chose. Alors, dans ce cas-là, en effet, il y a 1, 2, 3 relations réelles, mais il va y avoir 1, 2, 3 relations avec Dieu. Ah, ça, c'est équilibre. Et tout d'un coup, dès le moment où il y a un peu plus de 2, la solution va équilibrer le problème. Mais ça n'a aucun intérêt. L'intérêt, c'est de voir que dès lors que vous avez 4 personnes en jeu, c'est-à-dire dans un dialogue réel, vous avez évidemment aussitôt 6 relations réelles, mais si vous passez par Dieu, vous en avez 4. Vous voyez? Et si vous en avez 6, etc. Et donc, selon l'analyse combinatoire qu'il avait inventée, CN2 est évidemment très rapidement supérieur à N, dès que N est supérieur à 3. Et par conséquent, on peut démontrer mathématiquement, par le système dont j'ai parlé tout à l'heure, la rigueur, si vous voulez, de l'harmonie préétablie. L'harmonie préétablie est démontrable en rigueur au moyen de la géométrie et du calcul combinatoire. Mais alors, quelle est la solution de nouveau? Tout à l'heure, c'était un berger. Avec les Grecs, c'était un eidos, une forme, pour bloquer le disparate. Et maintenant, c'est un dieu unique. Et donc, pour coaguler, pour cailler, c'est-à-dire pour maîtriser l'innombrable disparate, le problème est de passer par l'unité. L'unité de Dieu chez Leibniz, l'unité de l'Eidos dans la tradition de la géométrie grecque, etc. Vous allez me dire, vous avez traité des questions cognitives, vous avez traité des questions, etc., mais parlez-nous quand même de questions politiques, parlez-nous quand même de sciences humaines, parlez-nous quand même du collectif. Alors, vous avez cité tout à l'heure mon travail sur Lucrèce, où ma question, la question que je posais n'était pas du tout la question du pluralisme, mais j'ai écrit un livre qui m'a beaucoup intéressé dans ma vie, qui est un commentaire que j'ai fait au plus près du premier et du second livre de l'histoire romaine de Tite Live. Et en étudiant ces deux livres-là, j'ai été frappé, ébloui, de la découverte réelle de Tite Live sur ce point. Et cette découverte était très simple, c'est-à-dire que Tite Live, pendant ces deux livres, est fasciné par un problème, c'est le problème du peuple. Tite Live est un aristocrate, le peuple, population, n'est-ce pas ? Et ce peuple-là, pour lui, c'est la multiplicité comme telle. Et mon livre sur Tite Live n'a que des chapitres sur la multiplicité ceci, la multiplicité là, la multiplicité. C'est une théorie des multiplicités. Et ça tombe très bien pour votre question. C'est-à-dire, c'est une théorie des grands nombres, une théorie de la multiplicité. Cette multiplicité, on ne peut pas la tenir. Évidemment, les aristocrates ne peuvent pas la tenir parce qu'elle est disparate, parce que tous les éléments sont différents. Et de nouveau, c'est le même problème. C'est le même problème que j'ai posé de façon cognitive, de façon, vous diriez, ontologique. Moi, j'ose pas m'avancer vers de si grands mots. On l'a de façon aussi concrète. C'est-à-dire, que faire devant une manif que faire, et c'est la manif sans arrêt à Rome, vous le savez bien. La plèbe descend tout le temps, etc. Et alors, la réponse qu'il fait tout le temps à cette question concernant la multiplicité ou l'unité disparate, c'est « omnes in unum », le tout vers l'un. Enfin, c'est difficile à traduire, « omnes in unum ». Et il est tout le temps en train de faire voir comment cette multiplicité est obligée de passer par l'unité pour pouvoir être maîtrisée, pour pouvoir la maîtriser. Alors évidemment, il y a 1000 variantes de ça. Premièrement, il y a la variante sacrée, c'est-à-dire le lynchage ou le sacrifice humain. Alors Romulus va être découpé par tous les sénateurs au marais de la chèvre, et chacun va prendre un morceau et va le mettre dans sa toge pour se cacher. Et donc là, vous voyez, il réconcilie les sénateurs autour du crime, autour de Romulus. Et Tarpeia, par exemple, la vestale qui a donné la victoire à Rome sur les Sabins, elle est récompensée par l'armée romaine, parce que les armées romaines lui offrent, chacun légionnaire de l'armée romaine lui offre son bouclier, envoie sur elle un bouclier. Alors évidemment, elle est absolument lapidée sous le tas des choses, et à ce moment-là, la multiplicité fait, vous voyez, c'est le lynchage tel qu'il va être perpétré, évidemment, au Sénat sur le meurtre de César. Voilà, une variante. La variante, on pourrait l'appeler sacrée, c'est pour le sacrifice. Il y a la variante organique, parce qu'au moment de la révolte de la plèbe, un patricien va arriver devant la plèbe et va lui raconter la fable de l'estomac, qui est reprise par La Fontaine et par tout le monde, c'est-à-dire que tous les organes du corps concentre sur l'estomac, parce que l'estomac à la fois donne des forces et reçoit de chaque organe ce qu'il faut pour le... Donc par conséquent, c'est une fois de plus, la totalité des organes ne peut être maîtrisée que par l'unique organe qu'on appelle l'estomac. Et puis, il y a la variante politique, évidemment. La plèbe fait la bêtise d'élire un tribun de la plèbe. Et en élisant un tribun de la plèbe, on voit très bien qu'elle imite la ville qui avait nommé ses pairs, évidemment. Et donc elle fait la même bêtise et elle résout, évidemment, par l'unité. Je pourrais ainsi donner toutes les variations de représentation, un discourant devant tous. Et puis la variante économique, évidemment, l'argent comme équivalent général. L'argent comme équivalent général, c'est toujours « omnes in unum », c'est l'unité fonde. Ah oui! Mais tout d'un coup, on s'aperçoit que, alors qu'il ne le dit jamais, et que comme il ne le dit jamais, personne ne voit qu'il le fait, Tite Live fait, en termes politiques, la même découverte que les Grecs avaient fait en termes géométriques. C'est-à-dire, il a eu un problème de multiplicité, cette multiplicité est disparate, elle est difficile à maîtriser, et par conséquent, voilà, on prend l'unité. C'est-à-dire, ce qui était l'eidos, dans la variante grecque géométrique, devient l'omnes in unum dans les deux premiers livres de Tite Live. Et de nouveau la solution à la question comment maîtriser l'innombrable disparate, eh bien c'est toujours le même modèle, l'unité de Dieu, l'unité de la politique, l'unité du tribun de la plèbe, l'unité de l'eidos, l'unité omnes in unum. Voilà. Que ce soit, comment vous dites, ontologique ou comment vous dites, épistémologique, que ce soit du domaine de la connaissance, du domaine de la réalité ou du domaine du collectif, c'est toujours pareil. Nous n'avons comme solution que l'unité qui caille, qui coagule. Oui, voilà. Alors, toute la question que nous avons à nous poser, nous, aujourd'hui, c'est peut-on se délivrer de ce schéma multiple ? Peut-on se délivrer du schéma pyramidal des Égyptiens qui est reproduit sur les rives de la Seine dans la forme de la tour Eiffel ? Hein ? Est-ce qu'on peut se délivrer de l'unité pour penser le collectif ? Et comment faire aujourd'hui devant l'immense marée tsunami de données dont nous disposons, qui touche à la fois la physique nucléaire, l'astrophysique, la cosmographie, etc., mais aussi la politique et les données personnelles que nous avons déployées aujourd'hui. Alors, ça devient difficile. Tout le problème est s'échapper à la forme unitaire. Alors, je vais de nouveau prendre un exemple concret, un peu comme le berger tout à l'heure. J'envoie un chèque à ma banque pour payer le plombier. Et ce chèque est de 80 euros, et la banque va le prendre, l'échanger avec la banque du plombier, etc. Et c'est 80 euros qui vont transiter. Mais sur ce chèque, il n'y a pas seulement 80 euros. Il y a mon nom, mon prénom, non seulement mon prénom, mon adresse. D'autre part, ce pourquoi je paye le plombier, c'est-à-dire des travaux dans ma maison, etc. Et d'ailleurs, dès qu'on s'adresse à la banque du plombier, le plombier donnera son nom, son adresse, ce pourquoi il le fait, la date des travaux, etc. Et tout d'un coup, on s'aperçoit que la transition du chèque va donner un nombre de données, de data telles qu'à partir de cette considération des données, peut-être l'argent est une donnée mineure par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il est peut-être plus intéressant pour la banque et quiconque d'autre de disposer des données concernant mon nom, mes relations, pourquoi j'ai fait le travail, etc., que de disposer de ces pauvres 80 euros. Voyez, et donc là, il y a quelque chose qui se pose aujourd'hui où on se demande est-ce que par hasard il y a des choses qui aujourd'hui auraient plus de valeur que cet équivalent général ? Et que cet équivalent général qui est unique, unum, omnes in unum, ou eidos, la forme, ou l'équivalent général, est tout d'un coup devant la multiplicité, le tsunami de cet innombrable disparate qu'on appelle les données. Et aujourd'hui, on est devant ce même problème qui me paraît intéressant et qui est un problème financier. C'est-à-dire, est-ce qu'il y aura aujourd'hui quelque chose qui remplacera l'argent, hein, qui est évidemment juridique, c'est-à-dire qui est possédé. Qui est le propriétaire de ces données ? Est-ce que c'est la banque qui sera la propriétaire de ces données ? Est-ce que ce sera Google qui est justement le support, etc. Est-ce que ce sera moi, parce que c'est quand même mes données ? Et est-ce que ce sera le plombier ? Et ainsi de suite. Et par conséquent, c'est un problème politique. Comment définir une société qui est liée par un élément nouveau qui a peut-être plus de valeur que les éléments classiques ? Alors, comment résoudre cette question ? Et cette question est aujourd'hui posée, elle se pose vraiment de façon intéressante. Alors là, j'ai fait venir mon plombier, décidément j'avais fait venir mon berger, le plombier. Je vais faire intervenir maintenant mon héroïne préférée, qui a pas mon âge évidemment, qui est beaucoup plus jeune que moi et que j'adore, et qui s'appelle Petite Poucette. Et Petite Poucette... Elle a en main un objet qui s'appelle son portable. Cette petite poussette tient en main. Et tout à l'heure, j'ai tenté de vous faire voir que quand nous parlons, que quand nous parlons, nous sommes attentifs au sens que nous émettons, mais nous sommes rarement attentifs aux mots que nous utilisons. Et étiez-vous attentif au sens réel du cogitare, n'est-ce pas ? Et que cogitare évoquait précisément tout d'un coup le problème pastoral, agro-pastoral. Vous voyez ? Et là, petite Poussette, quand elle tient en main son portable, elle m'a fait découvrir que je ne savais pas ce que je disais quand je disais maintenant, le temps réel. Le temps réel. Quand je dis maintenant, tout le monde croit que je fais allusion aux choses qui se passent entre nous et qui sont présentes là. Hein. Mais non, maintenant, ça veut dire tenant en main. Maintenant, tenant en main. Et ce qu'elle tient en main, petite Poussette, est intéressant. Je l'interroge, mais que tiens-tu en main maintenant, en temps réel ? Et ce qu'elle tient en main, c'est très simple. Elle tient en main l'espace. L'espace, même des endroits où elle n'est jamais allée, par le GPS ou par Google Earth, etc. Elle tient en main l'espace. D'ailleurs, attendez. Elle avait autrefois une adresse. Et cette adresse était 40 Boulevard de la République, je ne sais pas quoi. Et cette adresse est un code qui se réfère à un espace donné. Et cet espace donné est un espace découpé selon les départements, les villes. Et en gros, c'est l'espace cartésien par abscisse et ordonnée, mieux encore l'espace euclidien, mieux encore un espace métrique. Mais à cette adresse-là, elle ne reçoit plus que de la publicité qu'elle met, comme vous et moi, à la poubelle tous les matins. Mais les vrais messages, elle les reçoit sur michel.serre à Douanadou, c'est pas le bon, évidemment, ou sur 06, etc. Et par conséquent, cette adresse-là, 06, etc., ou michel.serre, à quel espace fait-il allusion ? À un espace qui n'est plus du tout un espace métrique. Attention, et ça va supprimer peut-être l'Eidos, cette affaire-là, qui n'est plus du tout un espace métrique, puisque je peux appeler n'importe où à n'importe qui, où qu'il soit. Où que je sois, je peux appeler n'importe qui, où qu'il soit. Voilà l'espace en question. Et cet espace, c'est un espace, il y a des mathématiciens dans la salle, qui s'appelle l'espace topologique, c'est-à-dire un espace de voisinage. Ne dites pas que cet objet-là a réduit les distances, il les a annulées. C'est-à-dire, nous vivons dans un nouvel espace, qui est un espace de voisinage. Enfin bref, Petite Poussette tient en main les lieux et une nouvelle variété d'espace. Elle habite une nouvelle variété d'espace. Deuxièmement, elle tient en main toutes les données du monde avec Wikipédia et autres moteurs de recherche. Elle peut taper n'importe quoi. Philippe Descola, dans quel livre dit-il analogisme, n'est-ce pas ? Et puis, troisièmement, elle tient en main autre chose qui est intéressant et que vous connaissez peut-être moins bien, c'est qu'il y a 15-20 ans à peu près, les mathématiciens spécialistes de statistiques avaient posé un problème intéressant qui m'intéresse beaucoup, si vous voulez. Ça consiste à dire en combien de coups de téléphone n'importe qui dans le monde peut appeler n'importe qui ? En combien de coups de téléphone n'importe qui, vous et moi passant rue d'Ulm, peut appeler n'importe qui en Nouvelle-Zélande ou Labrador, n'importe qui au hasard ? Et il y a 15, 16, 17 ans, la réponse était 7, 8 coups de téléphone. Et aujourd'hui, avec avec Facebook, etc., tous les grands connecteurs, la réponse est 4,35. C'est-à-dire, en 4 coups de téléphone, n'importe qui dans le monde peut appeler n'importe qui. Et par conséquent, elle tient en main les lieux, avec l'espace, elle tient en main les informations, et elle tient en main tout le monde. Et par conséquent, j'ai l'impression que la devise de Petite Poussette serait désormais, toujours pour répondre à votre question, maintenant tenant en main le monde. Ça, c'est bien, hein ? Maintenant tenant en main le monde. Maintenant tenant en main le monde. Et la question que je poserais volontiers, ce serait la suivante. Qui dans l'histoire pouvait dire maintenant tenant en main le monde ? Qui ? Eh bien, des unités exceptionnelles. C'est-à-dire, je ne sais pas moi, Auguste, empereur de Rome, à qui Corneille dans Sina fait dire « je suis maître de moi comme de l'univers hein ». Peut-être Louis XIV, roi soleil, peut-être un milliardaire chinois ou russe ou américain aujourd'hui, des personnes exceptionnelles. Aujourd'hui, 3 750 millions de petites poussettes peuvent dire « maintenant, tenant en main le monde ». Voilà la réponse à votre question. la réponse à votre question, c'est-à-dire l'unité a explosé. Vous entendez ça? C'est-à-dire que cette unité qui, dans l'histoire, s'appelait Auguste, qui s'appelait Louis XIV, qui s'appelait Louis XIV, etc., elle est égale à 3,750 milliards de petites poussettes qui, maintenant, tiennent en main cet objet. N'est-ce pas? Alors, c'est virtuel, tout ce que vous voudrez, mais enfin, c'est quand même un événement concret qui me permettrait de dire aux normaliens aujourd'hui, soyez gentils, reconstruisez-moi un système politique à partir de ça. C'est ça. Reconstruisez-moi donc, puisque vous n'avez pas su le faire au XXe siècle, il n'y a pas eu de système politique nouveau, alors qu'il y en avait eu tant au XIXe, et sans doute à cause de l'engagement politique, bien sûr. Mais enfin, on n'a pas su le faire. Maintenant, c'est le moment de se mettre au travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, étant donné cet événement, ben voilà, il y a un système à reconstruire, puisque précisément, l'omnes in unum n'est plus de mise, n'est-ce pas? Enfin, il est encore de mise, bien sûr. Mais il y a du nouveau, il y a du nouveau dans l'omnes, il y a du nouveau dans l'innombrable disparate. Et ce nouveau dans l'innombrable disparate, on a l'espoir qu'il ne soit plus résoluble avec les moyens traditionnels que je viens de citer, qui vont des mathématiques, si vous voulez, à la formulation politique. Alors je pourrais m'avancer peut-être un petit peu plus. Dans cette question, ça c'est ce que j'essaie de penser, si vous voulez, de manière concrète, avec des exemples le plus concrets possible. Mais pour revenir à la distinction cognitif, collectif, objectif, vous savez, que j'avais donné tout à l'heure, j'ai envie de parler d'un autre terme qui m'intéresse beaucoup et que je définirai tout à l'heure. Voilà. Voilà ce que je pourrais dire pour associer les mondes, le monde en question. Bactéries, champignons, baleines, séquoias, nous ne connaissons pas d'êtres vivants qui n'émet pas d'informations, qui ne reçoit pas d'informations, qui ne stocke pas d'informations, qui ne traite pas d'informations. Tous les êtres vivants sont soumis à ces quatre règles. Émettre l'information, recevoir l'information, stocker l'information, traiter l'information. Et ces quatre règles sont si universelles dans les êtres vivants qu'on a immédiatement la tentation de définir la vie par ces quatre règles. Or, pas du tout, parce que les contre-exemples surabondent. On ne connaît pas d'objet inerte, une particule, un atome, une molécule, un cristal, une roche, un continent, une planète, une étoile, une galaxie, dont on ne puisse pas dire qu'elle émet de l'information, qu'elle reçoit de l'information, qu'elle stocke de l'information et qu'elle traite de l'information. Ah, et si c'est vrai du vivant et tous les objets inertes, je peux sans doute définir le monde, alors ce que vous appelez ontologie, je crois, etc., comme ça. Mais non, pas du tout, pas du tout, parce que je ne connais pas d'unité humaine, un corps humain, une famille, une ferme, un village, une nation, dont on ne puisse pas dire qu'elle émet d'informations, qu'elle reçoit d'informations, qu'elle traite de l'information, qu'elle stocke de l'information. Donc les quatre règles d'émettre, de recevoir, de stocker, de traiter de l'information sont universelles. Et cette information, il faut la définir, hein, attention. Je ne veux pas vous induire en erreur. Cette information, ça n'a rien à voir avec l'information usuelle que vous recevez dans les médias. Et dans les médias, d'ailleurs, dans les médias qui sont tous définissables par « omnes in unum », n'est-ce pas ? C'est-à-dire très peu d'émetteurs et beaucoup de récepteurs. Des unités d'émission et une grande quantité, c'est-à-dire le schéma le plus ancien possible, dont il faut se défaire à tout prix. Non, l'information-là, ce n'est pas cette information-là, qui est de façon répétée, etc., et sans intérêt, c'est l'information au sens de Bridouin, au sens de la thermodynamique, au sens de la négantropie, c'est-à-dire ce qui est exceptionnel dans les petites énergies. Et c'est ça, cette information rare, que les vivants, que les objets inertes, et que les êtres humains échangent entre eux. Et donc, qu'est-ce que ce monde-là ? Là aussi, je n'ai pas à traiter du problème du réductionnisme, etc. Non, pas du tout. Parce que si dans le monde, si dans les vivants, si dans les humains, nous échangeons sans cesse cette unité-là qu'on appelle l'information, eh bien, le problème de la matière, etc., m'intéresse assez peu, puisque finalement, tous les objets sont à la fois énergie lourde et énergie légère, énergie rare et énergie, etc., c'est-à-dire traitable de manière à la fois énergétique et informationnelle. Très bien. Par conséquent, là aussi, je me fous de l'ancien problème. Et donc, le nouveau monde, c'est ça. C'est un échange extraordinaire d'énergie dure et d'informations douces. Des échanges multiples d'énergie dure où il n'y a pas du tout d'unité. Et ce monde-là, tenez, je vais vous le raconter. Ce monde-là que je découvre et que j'ai passé toute ma vie à découvrir, je vais vous le faire voir. Sous le coup de cet éblouissement qui résulte d'un retour subi à la lumière, les deux héros se crurent tout d'abord en proie à une sorte d'hallucination extatique, tant le spectacle qui s'offrit à leurs yeux était à la fois splendide et inattendu. Tous deux se trouvaient au centre d'une caverne immense. Le sol en était couvert d'un sable fin pailleté d'or. Sa voûte, aussi haute que celle d'une cathédrale gothique, se perdait dans des profondeurs insondables au regard. Les parois de cette substruction naturelle étaient tapissées de stalactites, d'une variété de tons et d'une richesse inouïe, sur lesquelles le reflet des torches jetait des feux d'arc-en-ciel, mêlés à des embrasements de fournaises et à des radiations d'aurore boréale. Rochers d'améthyste, murailles de sardoine, banquises de rubis, aiguilles d'émeraude, colonnades de saphir, profondes élancées comme des forêts de sapins, icebergs d'aigues marines, girandoles du turquoise, miroirs d'opale, affleurements de gypse rose et de lapis lazuli aux veines d'or, tout ce que le règne cristallin peut offrir de plus précieux et de plus éblouissant, avait servi de matériaux à cette surprenante architecture. Plus loin, un lac artificiel formé d'un diamant de 20 mètres de long, enchâssé dans le sable, semblait une arène toute prête pour les ébats des patineurs. Des palais aériens de chalcédoine, des kiosques et des clochetons de béryl et de topaze, s'entassaient d'étage en étage jusqu'au point où l'œil, lassé de tant de splendeur, se refusait à les suivre. Enfin, la décomposition des rayons lumineux à travers ces milliers de prismes, les feux d'artifice d'étincelles qui éclataient de toutes parts et retombaient en gerbe, constituaient la plus étonnante symphonie de lumière et de couleurs dont le regard de l'homme put être ébloui. Voilà le monde tel quel. Voilà le monde que je vous ai décrit. C'est-à-dire le monde où la totalité des existants est émetteur de lumière et échange des informations avec la totalité du reste des existants. Et ce texte est tiré d'un auteur philosophique très très profond, un métaphysicien extraordinaire, qui s'appelle Jules Verne, dans un roman peu connu qui s'appelle « L'étoile du Sud », où les gens sont à la recherche des diamants et trouvent la grotte originaire d'où sortent toutes les pierres précieuses. Et là, vous avez la caverne, ma caverne, qui est exactement le contraire de la caverne platonicienne. La caverne de Verne est exactement le contraire de la caverne platonicienne, parce que Platon chante la gloire d'un seul soleil quand on sort de la caverne, et qui est le jour, etc. On sort de l'ombre de la caverne, alors que dans la caverne que je vous ai donnée, le regard se perd comme au milieu d'un ciel étoilé, et comme si des lueurs nocturnes éblouissaient le penseur. Et cela me fait penser à un mot sur lequel je voudrais finir. C'est qu'il y a dans la philosophie traditionnelle un amour inconsidéré de la lumière. Et cette lumière, c'est le modèle excellent de la connaissance. C'est vrai chez les Grecs, c'est vrai à l'âge des Lumières, etc. Et évidemment, on dit que la lumière chasse les ténèbres. Et quand on dit que la lumière chasse les ténèbres, on ne sait pas ce qu'on dit. Parce qu'on n'a jamais vu, on n'a jamais vu les ténèbres chasser la lumière, jamais. La bougie la plus faible possible chasse immédiatement les ténèbres. Et on n'a jamais vu la nuit chasser le jour. On avait toujours vu le jour chasser la nuit. Le jour platonicien fait croire à l'unicité du vrai, à l'unicité de la vérité. Et j'aimerais demander aux astrophysiciens ce qu'ils pensent aujourd'hui du soleil platonicien ou du soleil du roi soleil. Bien voilà, c'est une naine jaune proche de sa nova, n'est-ce pas ? Alors voilà, je dirais volontiers non aux nains jaunes. Et donc, je crois qu'en réalité, la pensée et notre monde ressemblent beaucoup plus à la nuit qu'au jour. Et que le modèle de la connaissance, c'est la nuit, et non pas le jour. Pourquoi ? Parce que chaque étoile brille comme un diamant, le diamant de la caverne dont je vous ai parlé, que chaque galaxie ruisselle comme un ruisseau de perles, comme dans la caverne dont je vous ai parlé, et que chaque étoile renvoie à l'étoile voisine les lueurs qu'elle en reçoit, comme je l'ai dit, de l'information. Et par conséquent, le savoir authentique, la science authentique, la pensée authentique foisonnent de résultats et d'intuitions par millions, et par millions du point de vue de la quantité, et par différence du point de vue du disparate, et cette pensée authentique se réfère à de multiples repères, comme ils s'en forment des constellations dans la nuit, c'est exactement de cette façon-là. Et de toute façon, cette constellation-là, et ces constellations, et cette nuit, et ces étoiles, changent avec le temps, comme le grand récit de l'univers. Et par conséquent, j'ai confiance dans ce mouvement-là, de sorte que les étoiles nouvelles apparaissent et disparaissent, comme les vérités de la science dans son histoire. Et par conséquent, toutes ces lumières-là brillent sur un fond, sur le fond du non-savoir, et ce qui est tout à fait naturel, sur le fond du non-savoir, ou sur le fond de galaxies qui ne sont pas encore apparues. Et du coup, qu'est-ce que le savoir platonicien, sinon de l'idéologie cruelle, qui nous ramène toujours à une unité ? C'est le soleil, n'est-ce pas ? Eh bien, elle nous fait croire qu'il n'y a qu'une vérité. Eh bien, c'est ça l'idéologie. Tandis que la nuit me fait voir que les vérités sont multiples, qu'elles sont chatoyantes, qu'elles sont toutes différentes, que l'étoile Antarès ne brille pas comme Arcturus et qu'Arcturus ne brille pas comme Antarès et ainsi de suite, que Rigel et Bételgeuse sont rouges et bleus et l'autre s'appelle la tête de Méduse parce qu'elle a plusieurs couleurs. Et par conséquent, c'est ça le savoir, c'est ça le modèle des vérités. Et par conséquent, du point de vue du pluralisme, là, nous avons précisément dans la nuit un multiple à grande population, un innombrable disparate qui est désormais mon repère et l'ensemble de mes repères. Et je dirais volontiers que la nuit pense au sens de cogitare, au sens que j'ai donné en commençant, alors que le jour n'émet qu'une opinion, une seule opinion qui ne m'intéresse plus. Merci beaucoup.